les anges. Et parmi les anges, il y a des anges qui ont un niveau supérieur à d'autres anges. La parole de Dieu est une parole digne d'être reçue parce que, en commençant le message, nous commencerons par un texte de 1 Corinthiens 11, verset 3. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. On retrouve la hiérarchie voulue par le Seigneur. Christ, son chef, c'est Dieu. L'homme, son chef, c'est Christ. La femme, son chef, c'est l'homme. Mais attention à cette hiérarchie parce que dans le chef de la femme, c'est l'homme, il y a aussi une connotation sur la partie mariage. Attention, il faut bien comprendre les textes. Ça ne signifie pas que toute femme est soumise à tout homme. Hein, attention, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut que l'esprit soit présent pour ne pas déformer. D'ailleurs, la parole de Dieu ne s'interprète pas. C'est l'Esprit Saint qui la révèle. Dans ma logique, je peux interpréter cette parole d'une certaine façon. Elle peut être teintée de ma culture, de la connaissance que j'ai eue à l'école. Mais quand l'Esprit se révèle à moi, ce n'est pas ça qui prévaut, c'est ce que Dieu veut qui prévaut. C'est pour ça, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut se souvenir de demander l'assistance de l'Esprit Saint pour bien comprendre les textes. Se soumettre signifie respecter la volonté, faire la volonté, obéir. 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 C'est là l'ordre que Dieu nous donne. La soumission fait partie de l'ordre établi par Dieu. Je rappelle que dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné toute autorité à l'homme. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme avaient reçu toute autorité. Ensuite, l'usurpateur est arrivé, le dragon ancien, pour récupérer cette autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Et vous comprenez pourquoi, lorsque Christ vient, il nous rappelle, avant de partir, que toute autorité lui a été donnée. Mais cette parole, elle est dite pour qui ? Pour toi et moi. Parce que l'autorité, on l'avait dans le jardin d'Éden avant la chute. Mais lorsque le malin entrait avec le péché, et voilà, les choses se sont transformées. Les choses se sont transformées. Ainsi, malgré le fait que le péché soit entré dans le monde et que la volonté de Dieu a été changée, à qui le croyant doit-il se soumettre ? Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. À qui doit-il se soumettre ? La première soumission qui est extrêmement importante, c'est notre soumission à Dieu. C'est le principal. C'est être soumis à Dieu, donc à Christ, puisque Christ est Dieu. Et donc, là nous pouvons le voir dans Hébreux 12, cette soumission implique d'être soumise à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit faire autorité dans ma vie. Si j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici, il s'est présenté à moi. Le monde dit, Dieu ne parle pas, c'est surprenant. Mais qu'y a-t-il dans la Bible ? N'est-ce pas Dieu qui parle aux hommes ? N'est-ce pas Dieu qui parle aux hommes ? N'est-ce pas un des plus gros mensonges qui existent sur cette terre ? Dire que Dieu ne parle pas, mais la Bible, elle est là. Dieu te parle directement, à toi, directement. Vous savez, les textes de la Bible, lorsqu'on les compare dans notre vie, on peut trouver des surprises. J'ai trouvé une surprise dans un texte. C'est lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée et lui dit « Garde la foi que t'a transmise ta mère. Et ta mère a eu cette foi par sa grand-mère. » Quand je lis ces textes, je me dis « Seigneur, oui, tu me connaissais, parce que c'est ma mère qui m'a emmené à l'église. » parce que ma grand-mère était croyante. Vous voyez comment on voit que Dieu te parle directement. Si tu mets que le nom de Timothée, tu ne comprendras pas le texte. Enlève le nom de Timothée, mets ton nom dans le texte qu'il y a. Tu vas comprendre que Dieu s'adresse directement à toi. Un autre niveau de soumission que nous rappelle la parole de Dieu, un niveau qui est souvent oublié, c'est celui de se soumettre aux autres croyants. Éphésiens 5, 21. Dieu nous appelle à nous soumettre les uns les autres dans une assemblée. Mais dans le même Éphésiens 5, Dieu va donner des détails sur ceux qui sont mariés, qui sont dans l'assemblée, qui sont mariés. Et là, le Seigneur va rappeler à la femme, « Sois soumise à ton mari. » Et il va rappeler au mari, « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. » Qu'est-ce qui est plus difficile ? Être soumis ou aimer la femme comme Christ a aimé l'Église ? Chacun sa part. Femme, exalte de joie parce que Dieu t'a demandé d'être soumise à ton mari. Mari, exalte de joie parce que Dieu t'a demandé d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. L'Église, une femme difficile, hein? Très difficile, mais Christ l'a aimée. On peut voir aussi dans Genèse ce que le Seigneur va dire par rapport à ce que va faire l'homme et ce que va faire la femme. Mais comprenez bien que ce n'est pas parce que l'homme ou la femme dans le foyer ont une position différente qu'ils ne sont pas égaux devant Dieu. Attention, attention, ne faites pas de confusion là-dessus. Un autre niveau aussi qui nous est rappelé, ce sont les autorités qu'il y a dans l'Église. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez-les, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est le texte d'Hébreux 13, chapitre 7. Il y a une hiérarchie aussi dans l'Église. Et dans l'Église, ce sont les anciens qui dirigent l'Église. Et dans les anciens, on peut trouver des pasteurs, on peut trouver des prophètes, on peut trouver des évangélistes, on peut trouver des apôtres, mais des gens qui incarnent ces ministères. C'est la Bible qui le dit. Mais peut-être qu'on peut trouver une personne qui incarne plusieurs ministères. Voyez-vous, dans l'ombre, le Seigneur nous a fait grâce. Moïse, savez-vous que Moïse incarnait les cinq ministères ? C'est pour ça qu'il a écrit les cinq premiers livres. Et les cinq premiers livres correspondent à des ministères, que ce soit Genèse, que ce soit Exode, que ce soit Lévitique, que ce soit Nombre, que ce soit Deutéronome. Ça correspond à des ministères, ça correspond à apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est une grâce. La Bible rappelle aussi ce qu'on attend de ceux qui vont diriger l'Église. Quel doit être leur exemple d'abord dans leur foyer, qu'ils soient anciens ou diacres. Le ministère n'est pas facile, mais je vous dirai, puisque Christ nous a aimés, dans sa grâce, il aide aussi ses ministres dans ce travail. Ne les oubliez pas dans vos prières. N'oubliez pas ceux qui ont la responsabilité de l'Église dans vos prières. Mais la Bible nous dit aussi, à travers le texte que nous venons de lire de Romains 13, qu'il faut se soumettre aussi aux autorités civiles. Il faut se soumettre aussi aux autorités civiles. Civil, le texte de Romains est clair. On ne peut pas tordre ce texte. Il nous rappelle qu'il faut se soumettre aux autorités civiles. Et pourquoi faut-il se soumettre aux autorités civiles ? Nous nous soumettons aux autorités civiles pour le bien. Attention, pour le bien, il y a une condition. Avec Dieu, il y a toujours une condition. On ne se soumet pas pour rien. Lorsque je parle de soumission de l'homme, de la femme à l'homme, je rappelle que l'homme est très soumis en passant. Lorsque je parle de la soumission de la femme à l'homme, je rappelle aussi que c'est pour le bien. Si l'homme te demande de faire quelque chose qui est mal, tu n'as pas à le faire parce que c'est une contradiction avec la parole de Dieu. Si l'autorité civile te demande de faire quelque chose qui est mal, tu n'as pas à le faire parce que c'est une contradiction avec la parole de Dieu. Il y a quelques années, dans ce pays, les autorités civiles demandaient de dénoncer où se cachaient les Juifs. Est-ce que le chrétien ou le croyant était-il tenu par cette directive? Non, mes amis. Non. 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 Si tu fais le mal, tu n'es plus sous l'autorité de Dieu. Tu es sous l'autorité de qui? De Satan. C'est aussi simple que ça. C'est quand nous faisons le bien que nous nous plaçons sous l'autorité du Christ. Donc le magistrat que Christ envoie, je vous rappelle que Jésus-Christ étant le magistrat suprême, le magistrat que Christ envoie, il est là pour faire le bien, pas pour faire le mal. 1 Pierre 2, versets 13 à 24. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos responsables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs, chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut. C'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Car vous êtes serviteur de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu. Respectez le roi, serviteur. Soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû. Non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Vous étiez comme des brebis errantes. Ce souvenir de notre endroit de captivité, lorsque nous étions dans le monde, ça nous permet de voir comment Dieu a travaillé en nous pour que nous puissions changer. Et le croyant doit être différent. Regardez Christ, l'exemple parfait. Qu'a-t-il dit quand on lui a posé la question sur les impôts? Eh oui, il faut bien payer l'impôt. Il y a quelle effigie sur nos monnaies? Il n'y a pas l'effigie de Jésus. Donc cet argent doit repartir vers l'endroit où il a été donné. Et payer les impôts est une forme de solidarité. Parce que l'État essaye de donner à des plus démunis. Ne regardez pas lorsque vous payez vos impôts au scandale de corruption qui existe. Ne regardez pas ça. Regardez les pauvres qui n'ont pas accès au logement que l'État aide. Parce qu'effectivement, par la chair, nous pouvons justifier certaines choses. Je peux me dire, mais ce que je paye en impôts, quelqu'un m'a dit une fois, ce que je paye en impôts, on paye les policiers. Non, vraiment, moi, les policiers, je ne les supporte pas. S'il était possible que mes impôts aillent ailleurs que payer des gens comme ça. Non, il ne faut pas regarder ce que vous considérez comme négatif. Il faut considérer le bien fondé de cette organisation, parce qu'il faut bien venir en aide aux plus démunis. L'attitude de Jésus face aux autorités est surprenante. Vous savez, Christ est vraiment le moindre geste, le moindre fait mérite notre attention et mérite de comprendre pourquoi il agit ainsi. On voit Christ devant Ponce Pilate, l'échange qu'il a avec Pilate. Vous lisez ça dans les évangiles. Il parle de la vérité à Pilate. Pilate ne comprend pas. Pilate est complètement éloigné de cet échange. Il est à des années-lumière. Et il rappelle à Pilate que l'autorité que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Pilate ne comprend toujours pas. Il ne comprend pas ce langage. Christ l'emmène à la conversion. Pilate dit, c'est moi qui ai ta vie entre mes mains. C'est incompréhensible. C'est un échange que Pilate n'a pas pu comprendre. Pilate n'a pas saisi la grâce. Parce que les autorités civiles ont besoin aussi d'avoir la grâce d'entendre l'évangile. Ce sont des âmes qu'il faut sauver. C'est comme ça qu'il faut les regarder. Ce sont des âmes, s'ils ne croient pas en Dieu, ce sont des gens perdus à qui il faut annoncer l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont droit aussi d'entendre l'amour de Dieu. Une autre surprise, Jésus devant Hérode. Jésus arrive devant Hérode. C'est d'ailleurs surprenant parce que quand on parle d'Hérode à Jésus, Jésus dit « ce renard ». Jésus appelle Hérode le renard. C'est surprenant. Mais pourquoi dit-il le renard? Un renard se cache toujours dans sa tanière. Ça, c'est le premier fait. Hérode était tout le temps dans sa tanière. Sa tanière, était son palais. Hérode ne savait même pas ce qui se passait autour de lui, comment vivait son peuple. Tout ce qui l'intéressait, c'était son pouvoir, faire la java avec ses amis dans son palais. Mais il y a une deuxième signification au fait que Christ appelle Hérode le renard, c'est que c'était un animal. Lorsque tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie et que ta vie n'a pas encore changé, tu es un animal. L'homme animal a le dessus sur toi. Tu vis comme un animal. Voilà comment Christ avait identifié que Hérode était un renard. Et du coup, lorsque Christ se présente à lui, ou lorsque on emmène Christ à Hérode, Christ ne lui parle pas. Moi, quand je lis Jésus, je suis toujours dérouté, mais vraiment dérouté. Christ n'adresse aucune parole à Hérode, parce qu'il lui avait parlé avant. Il avait dit « renard ». Si Hérode avait entendu « renard », il se serait posé la question « pourquoi m'appelle-t-il renard ? » Et s'il s'était posé la question « pourquoi il s'appelle renard ?», il aurait eu la grâce de comprendre qu'il fallait qu'il sorte de son état d'animal pour devenir un homme. Nous ne pouvons pas accepter le mal. Même si sur cette terre, le croyant vit dans un milieu où il y a le mal n'est pas dans notre ADN. Aucun croyant ne peut applaudir ce qui est mal. Parce qu'à partir du moment où tu applaudis ce qui est mal, tu fais une association avec Satan. Et si tu fais une association avec Satan, c'est que tu deviens fils de Satan. C'est aussi simple que ça. Acte 5, 29. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu prévient. Lorsque les croyants sont persécutés, ils acceptent d'aller vers les autorités civiles. Vous voyez, les apôtres, ils étaient persécutés. On voit même Paul, à un certain moment, les murs de la prison tombent. La tentation, quand les murs d'une prison tombent, c'est de s'enfuir. Non, il reste sur place. Vous comprenez comment ces textes, ils le vivaient. Ce n'est pas des gens qui disaient juste pour vous dire des belles histoires. Ils le vivaient. Paul n'est pas sorti de prison. Il est resté. Il est resté dans la prison. Et le centurion qui les gardait, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, le centurion qui les gardait, qui a failli s'enlever la vie parce qu'il s'est dit, si les prisonniers s'enfuient, moi, je serai décapité. Eh bien, c'est Paul qui lui dit, non, ne fais pas ça. Et la grâce est entrée dans la maison de ce centurion. La parole de Dieu est une parole digne d'être reçue, mais elle est aussi digne d'être vécue. L'évangile se vit. Il s'annonce, mais il se vit. Ecclésias 8, verset 2, « Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. » Observe les ordres du roi. Il y a un lien, et cela à cause du serment fait à Dieu. Un grand exemple que nous avons dans la Bible de quelqu'un qui a observé les ordres du roi, selon le serment qu'il a fait à Dieu, c'est l'exemple de Daniel. Voyez-vous, en captivité, Daniel était soumis au roi. Il était soumis au roi. Jusqu'à ce que le roi lui demande de prier le roi. Et donc, on voit là le lien avec ce qui est dit après. C'est-à-dire que tant que ce qu'on nous demande va dans le bien, nous sommes tenus de le faire. Mais dès que ça devient une désobéissance à ce que Dieu a dit, nous ne pouvons pas le faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la désobéissance à Dieu a atteint des niveaux extrêmement élevés. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, on nous parle du mariage pour tous? Il y a des églises qui baptisent des homosexuels. Est-ce possible? Peut-on encore parler de soumission à Dieu ou à Satan? Aujourd'hui, il existe des lois dans des pays anti-étrangers. Est-ce une soumission à Dieu ou à Satan? Aujourd'hui, il existe dans ce pays le droit qu'on appelle l'IVG. Est-ce une soumission à Dieu ou à Satan? Il existe dans certains pays la peine de mort. Est-ce une soumission à Dieu ou à Satan? Nous ne sommes pas tenus par ces choses. Nous sommes tenus par la parole de Dieu. Et je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, il existait une dîme pour les étrangers. Vous comprenez? Vous voyez la pertinence de la parole de Dieu. Parce que tout à l'heure, nous avons lu dans Colossiens, mais il n'y a plus de juifs. Qui est étranger, en fait? Qui est étranger sur cette terre? Qui pense que cette terre lui appartient et qui pense qu'il est étranger à cette terre? L'être humain est complètement déphasé des réalités spirituelles. De toute façon, le langage de Dieu ne peut pas être compris par celui qui est encore revêtu de peau d'animal. Mais voyez-vous, la surprise, c'est que même dans l'ombre, Dieu nous disait qu'il allait sortir les animaux de la forêt pour en faire des croyants. L'histoire de Noé, c'est surprenant. Noé parle aux hommes, il n'y a que sa famille qui l'écoute. Noé parle, ce sont les animaux qui viennent. L'image des animaux qui entrent dans l'arche de Noé, mes chers amis, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut que ce que tu dis ait une référence dans l'Ancien Testament, dans l'ombre. Il faut aussi que ce que tu dis ait une référence dans la nature, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que même la nature est un enseignement pour toi. Et ce que tu vois dans la nature et ce que tu vois dans l'Ancien Testament, tu le retrouves dans la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Nous vivons grâce à lui. Mais alors, il y a quand même un passage que nous sommes en droit d'aborder ce matin, c'est celui d'Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà ceux qui ont amené le mal sur cette terre. Voilà ces esprits méchants qui ont pour chef le dragon ancien, l'usurpateur. C'est eux qui viennent imposer le mal sur cette terre. Et voyez-vous, lorsque vous allez dans un endroit où il y a la justice, c'est le royaume des cieux qui est annoncé. Lorsque vous allez dans un endroit où il y a l'injustice, c'est le royaume de Satan qui est annoncé. Il faut bien faire la part des choses. Nous appliquons les lois qui font le bien, pas celles qui font le mal. Je vous rappelle que l'usurpateur Satan fait des contrefaçons. Il ment et continue à mentir. En obéissant au Seigneur, nous détectons les ruses de l'ennemi et nous nous plaçons sous la bannière de notre Seigneur. Parce que dans le verset juste avant, le 12, il y a le verset 11, où il est rappelé à l'enfant de Dieu son armure pour lutter justement contre le diable. Et dans cette armure, je vous rappelle que dans Éphésiens 6, 11, il y a une seule arme qui est offensive, c'est la parole de Dieu. C'est la seule qui est totalement offensive, c'est l'épée. Tout le reste est défensif. Et donc, du coup, il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir lutter contre les ruses du diable. Je vous rappelle qu'il est très rusé, qu'à la fin des temps, il proposera la paix aux hommes. Les hommes vivront en paix. Il proposera le signe de la bête sur chaque homme pour pouvoir acheter des provisions. Mais les hommes auront l'illusion de vivre en paix. Et il mentira en disant, lorsque vous mourrez, ne se passe rien. Vous avez déjà entendu beaucoup dire, lorsqu'on meurt, c'est le néant. Ça, c'est un des plus grands mensonges de Satan. Lorsqu'on meurt, il ne se passe rien. Totalement faux. Totalement faux. Puisque la Bible nous dit, lorsqu'on meurt, il y a deux possibilités. Ou on va dans le repos avec le Seigneur, ou on va en enfer. C'est pour ça que d'ailleurs, toujours dans l'ombre, Joseph dit aux fils d'Israël, ne laissez pas mes os ici. Curieux, hein? Il sait qu'il va mourir. Mais sa dernière recommandation, c'est de dire, ces os-là, ne les laissez pas là. Vous les emmènerez avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie après la mort. Parce qu'il annonçait la résurrection. Vous voyez comment ces choses ont été dites depuis très longtemps. Encore faut-il que l'Esprit permette de les comprendre. Aujourd'hui, Satan dispose d'organisations sur cette terre pour faire asseoir sa puissance. Aujourd'hui, les organisations sataniques sont connues. La franc-maçonnerie est une organisation satanique. Les Illuminati, c'est une organisation satanique. Ne vous y trompez pas. Tous ces gens travaillent pour le dragon ancien. Ils viendront vous voir avec des brochures et vous dire qu'ils sont humanistes. Ils sont humanistes. Ils aiment l'homme pour t'emmener en enfer. Désormais, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare, tout lui a été soumis. Il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. La bataille d'Armageddon est déjà annoncée dans 1 Corinthiens 15. Si vous lisez Apocalypse 16, 16, vous verrez que toutes les puissances s'élèveront contre Christ et seront définitivement écrasées. Voilà la prophétie que dit la Bible. Voilà la prophétie qui va se réaliser. Celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est encore sous l'autorité du mal, du malin. Il a besoin d'être restauré. Et celui qui restaure, c'est Jésus-Christ. Ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, moi je t'invite à la fin du culte à venir. Parce que la Bible dit qu'au son de la trompette, au son de la trompette, vous savez que le son de la trompette, c'est la parole de Dieu. lorsque la parole de Dieu sera annoncée avec puissance, et lorsque le Christ reviendra avec puissance, ceux qui auront accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur seront enlevés en un instant. Notre prière, c'est que beaucoup viennent à Christ pour qu'au son de la trompette, tous soient enlevés et tous forment un. Quelle est la responsabilité des croyants face aux autorités ? Pour finir, il ne faut pas oublier de prier pour les autorités. Il nous est rappelé dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2. C'est une responsabilité. Et Dieu soit loué que, en préparant ce message, vous savez, quand on prépare un message, on est soi-même déjà interpellé. Dans mon pays d'origine, il y a des choses difficiles qui se passent, très difficiles. Et pourtant, il y a des autorités qui sont là. Que faut-il faire ? Lorsqu'on prend son téléphone, on est très amer, mais ce sont des voleurs, des violeurs, des assassins. Et lorsqu'on lit le texte de Timothée, il nous est dit « Priez pour eux ». Priez pour eux parce que ce sont des animaux pour l'instant. Priez pour eux pour qu'ils viennent à Christ, pour qu'ils changent. Voilà ta responsabilité. Est-ce que ta responsabilité, c'est d'aller faire une rébellion ? Non. Non. Dieu veut t'emmener vers les choses spirituelles, les choses importantes. Ce pouvoir qu'ils ont n'est que temporel. Il ne durera pas 1000 ans. Il ne durera pas 200 ans. Ce n'est que temporel. Et même les frères qui nous ont précédés dans la croix disaient que même quand ils étaient enfermés, c'est le corps que tu enfermes. Mon esprit n'est pas prisonnier. Mon âme n'est pas prisonnier. Tant que je suis avec Christ, ce qui se passe autour de moi ne doit pas m'affecter. Vous comprenez quelle était leur foi, pourquoi ils ont été assez forts pour résister à des tempêtes et pour vivre des moments en prison et pour être décapités. Parce que frère, si tu aimes le ministère d'apôtre, n'oublie pas que pratiquement tous les apôtres sont morts décapités. Les 21 coptes qui ont été exécutés en Égypte, ils ont dit leur appartenance à Jésus avant d'être décapités. Mais c'est la seule partie que les médias n'ont pas fait voir. Et voilà des apôtres. Voilà des apôtres. Mes amis, le chemin est long. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce parce que, voyez-vous, la Bible est arrivée jusqu'à nous parce que Dieu de grâce a agi. Hier, je regardais, j'avais jamais vu, la première fois que je vois le film de Luther, Martin Luther, pour la réforme protestante. Je n'avais pas vu que c'est lui qui avait commencé à traduire le Nouveau Testament en allemand pour donner l'accessibilité de la parole à un maximum de gens. Nous sommes en 1500 après Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'en ce temps-là, l'Église catholique ne souhaitait pas que le commun des mortels lise la Bible. Il considérait le commun des mortels comme des idiots qui ne pouvaient pas comprendre la parole. Voilà, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, tu as une Bible dans ta maison. Remercie le Seigneur. Cette réforme, il y a eu plusieurs morts. Plusieurs personnes sont mortes. Mais voilà, Dieu nous a fait grâce, nous aujourd'hui, d'avoir cette Bible entre les mains. Oh, mes chers amis, n'oubliez pas de la lire tous les jours. C'est une grâce que Dieu te fait. C'est une grâce. Beaucoup sont morts sans avoir lu une seule page de ce livre. Si tu penses que Dieu t'a pas fait grâce, voilà la grâce que Dieu t'a fait. Je termine en vous lisant le texte de Jacques 1, parce que la parole de Dieu, vous voyez, on peut commenter, on peut essayer de dire les choses selon l'esprit, mais il faut toujours revenir à la source, lire la parole, parce que cette parole nous fait du bien. Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est comme un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec la chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir un visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves sans leur dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dans la parole de Dieu, Christ, en répondant aux malins, lorsque Satan citait une parole biblique, Christ disait aussi, il est aussi écrit. Désormais, que ce « il est aussi écrit » soit dans ton cœur, dans tous les passages que tu apprends dans cette parole, que tu les récites lorsque tu es dans la tentation, lorsque le diable t'attaque. Et maintenant, ceux qui veulent que l'emprise de la tentation s'arrête dans leur vie, si ce matin tu veux que les bêtises de Satan s'arrêtent dans ta vie, je t'invite à te lever pour prier maintenant. Je t'invite à te lever. Le temps de la prière, c'est maintenant. Si jamais tu vis une difficulté, je t'invite à te lever pour prier maintenant. Si jamais dans ta vie, tu sens qu'il y a encore une chaîne qui n'a pas été brisée, je t'invite à te lever maintenant pour que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Jérémie, est-ce que tu peux venir ? Est-ce que tu peux venir ? Si tu peux prier dans ce sens. Oui, d'accord.
Notre Seigneur, nous venons devant toi avec nos fardeaux, dans nos besoins. Nous reconnaissons que nous avons toujours dans notre vie des choses qui ne te plaisent pas, qui ne te plaisent pas, des choses qui nous empêchent de vivre la vie que tu veux pour nous. Et nous ne pouvons rien faire en nous-mêmes. mais toi, tu peux tout faire. C'est toi qui peux briser nos chaînes. C'est toi qui peux nous libérer, qui peux nous amener sous ton autorité, sous une autorité où nous avons une liberté parfaite. Et donc, nous venons devant toi et nous prions ensemble ce matin pour chacun ici qui veut être libéré, chaque personne qui veut être libérée dans la salle, que ces personnes puissent recevoir la liberté de ton autorité, que chaque personne qui le désire le reçoive. Nous prions ensemble pour ces personnes et ces personnes nous joindre dans notre prière et te demander. Et tu ne refuses jamais quelqu'un qui vient vers toi. Tu es un Dieu d'amour et de grâce. Tu ne vas jamais nous refuser quand nous te demandons. Tu vas nous donner la grâce qu'il nous faut. Et nous te remercions pour cette grâce et pour le fait que ce n'est pas une grâce faible ou impuissante, mais c'est une grâce puissante, une grâce qui peut nous libérer. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons être libérés. Et donc nous venons devant toi avec nos frères et nos sœurs pour te demander tout simplement à nous libérer. Que chaque personne ici ce matin puisse se présenter devant toi et être libérée par ta grâce, par ta puissance. Nous avons tellement besoin de toi. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous prions. Amen.
Amen. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous terminons ce culte par un chant.